19h-20h, les vraies voix écoutent la France, Philippe David.
Bienvenue pour cette dernière de la semaine des vraies voix écoutent la France en compagnie de Mathéo Lamblot. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
En forme ?
Très en forme même.
Très en forme, oui, la dernière de la semaine puisque demain, vous le savez, Sud Radio est la radio du rugby. Et ce sera bien évidemment le rugby qui sera au programme.
Mais
la Pro des deux, absolument. Mmh. Et nous avons un menu qui est copieux ce soir, Mathéo.
On va d'abord revenir sur un sujet qui a fait réagir hier, c'est cette proposition d'un fichier national pour que les propriétaires identifient les mauvais payeurs. Hein. C'est une proposition du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Ensuite, on reviendra sur la campagne de Parcoursup qui se terminait aujourd'hui, hein, en ce jeudi 10 décembre avec la fin...
Septembre, hein. Vous avez 3 mois d'avance là.
10 septembre avec la fin de la phase d'admission complémentaire. Donc si vous avez un enfant qui est concerné, hein, qui n'a pas réussi à trouver d'études pour cette rentrée 26-27, on vous attend au 0826-300-300. On va revenir sur un autre sujet qui a fait réagir, c'était dans les deux premières heures des vraies voix, c'est ce projet de loi sur la transparence salariale présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On vous demande si vous accepteriez que vos collègues connaissent votre salaire.
À condition de connaître le leur aussi, parce que ça marchera dans les deux sens. Hein.
Et, oui. Et enfin, on parlera des appelés du contingent du Tchad en 1968 qui vous ont contacté.
Oui,
Philippe.
Parce que vous êtes nombreux à nous contacter pour parler comme sur les impayés, comme sur Parcoursup. Vous nous avez appelé dès aujourd'hui. Ou alors, j'ai été contacté par une association d'anciens combattants qui m'a envoyé un beau courrier. Parce qu'il y a quand même une chose qui n'est pas bien, qui a été faite à des appelés du contingent qui ont été envoyés en zone de guerre malgré eux en 68. Et ils demandent deux choses qui ne coûteraient pas un centime à l'État. Et je vais leur donner la parole parce que je pense qu'ils les méritent. Et le sujet vous a fait beaucoup jaser hier dans les vraies voix. Le sujet, les impayés. Les locataires qui sont mauvais payeurs, faut-il un fichier ou pas ? On avait eu un auditeur hier qui nous a appelé pour parler des mauvais propriétaires, puisque lui, il avait un mauvais propriétaire. Mais Ghislaine, vous voulez réagir, vous n'avez pas pu réagir hier soir. Bonsoir Ghislaine.
Bonsoir Philippe, bonsoir toute l'équipe. C'est toujours un plaisir de vous entendre.
Ah merci, merci beaucoup, ça me touche énormément, ça nous touche énormément. Et vous, vous nous avez contacté parce que c'est votre maman qui est victime d'un locataire mauvais payeur. Racontez-nous.
Eh bien, écoutez, mes parents ont investi pour leur retraite dans les années 90. Ils ont eu un petit héritage à l'époque. Ça va faire écho au sujet de précédent,
oui.
Où les abattements étaient plus intéressants qu'aujourd'hui. Donc, ça leur a permis d'avoir un petit apport pour acheter un appartement parce qu'ils savaient qu'à la retraite, ça allait être un peu compliqué. Aujourd'hui, maman est veuve. Elle a 1100 euros de retraite par mois. Et donc, cet appartement devrait lui rapporter 700 euros par mois. Il y a 3 ans, en mai 2023, l'appartement a été loué à des locataires qui étaient salariés. Donc, tout allait bien, on va dire. Ils remplissaient tous les critères. Et dès le mois de juillet, ils ont arrêté de payer. Voilà.
Donc, ils ont payé mai, juin, juillet. Ils ont payé 3 mois ou 2 mois ou 3 mois.
Oui, non, juillet, on l'a pas eu. On l'a pas eu.
Ils ont payé que 2 mois.
On n'a pas eu de plaisir.
Non, mais c'est fou.
Ils ont payé que 2 mois. Oui, oui. Quand ça ronronnait un peu, il y a dû y avoir un mois ou deux de payer par-ci, par-là. Alors, j'ajouterais qu'en plus, ils ont 50% du loyer et charges en APL.
Ah
alors,
oui.
Il a fallu 2 ans pour arrêter les APL. Donc, ça aussi, c'est pour moi un scandale.
Deux ans pour arrêter les APL alors qu'ils ne payaient pas le loyer.
Oui. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, on pourrait aussi être plus réactif sur ce côté-là. Comme ça, c'était relativement confortable pour eux. À partir de là, bien sûr, il y a des procédures qui ont été lancées. En parallèle, bien sûr, nous avons eu des troubles du voisinage. Ils ont acheté une deuxième voiture. Il y a une place de parking avec l'appartement. Ils ont acheté une deuxième voiture qu'ils mettent sur les voies pompiers. Donc, ça gêne tout le monde. Ils font du bruit à n'en plus finir. Quand il y a la Coupe du Monde de football, ça va vous parler, Philippe, mais ils ont acheté le grand écran qui va bien pour mieux voir les joueurs et les fautes, j'imagine. L'arbitrage ne devant pas suffire, ils voulaient pouvoir juger certainement par eux-mêmes.
vous ne manquez pas d'humour vu les circonstances.
il en faut. Parce que là où on est à 3 ans de procédure, donc ça s'est passé en 2 temps. D'abord, il a fallu faire constater qu'ils étaient dans l'appartement sans loi ni titre. Après, relancer une procédure pour pouvoir obtenir un avis d'expulsion. en croisant les doigts qu'il ne soit pas en surendettement, parce que sinon la procédure pouvait tomber. Enfin, je vais assez vite, je ne suis pas occupée, monopolisée.
Non, allez-y, on a tout notre temps, il n'y a pas de problème.
Et je sais qu'il y a plein de sujets aussi importants après. Enfin, là, aujourd'hui, on en est au mois de juillet, donc 3 ans après les premiers incidents de paiement, on a un jugement donc, qui dit que là, OK, on peut lancer l'expulsion. Donc, ils ont eu l'information, ils ont 2 mois pour quitter l'appartement, ce qui va nous amener au 15 septembre. Et là, on va dépendre de la décision du préfet pour pouvoir avoir le soutien de la force publique. Donc, 15 septembre, 31 octobre, on a 6 semaines. Et selon les régions, les préfets ne sont pas tous aussi réactifs. Et là, on craint que la trêve hivernale soit accordée.
Alors,
c'est compliqué.
Mais je vous pose une question quand même, parce que depuis 3 ans, ils n'ont plus payé. C'est 700 euros de loyer par mois, c'est ça ?
Oui.
Donc 8 400.
Mais il y a toujours les charges.
Oui.
Donc il y a toujours les charges qui tombent. La taxe d'ordure ménagère qui est due par un locataire
n'est pas payée. La taxe foncière, votre mère va devoir la payer dans quelques jours.
Oui. Donc c'est toutes les charges qui continuent à tomber. Et j'ajouterais, maman a 88 ans.
Oui.
Ses revenus de retraite ne permettent pas de faire face à des frais qui pourraient être liés. Heureusement, elle va bien. Mais bon, elle vieillit aussi. Elle commence à avoir besoin aussi un peu d'aide. Si on se trouve confronté à la dépendance, l'idée était aussi de vendre cet appartement pour pouvoir financer des frais de maison de retraite ou autre. Voilà, donc tout est prévu, mes parents avaient tout organisé pour avoir une retraite, on va dire, sereine. Et aujourd'hui, avec des mauvais payeurs, et je dirais une justice qui quand même prend son temps, parce que les propriétaires ne sont pas véritablement protégés dans ces cas-là.
C'est clair.
On se retrouve dans une situation ubuesque, où on doit continuer à faire face à des charges, à des impôts, et qu'en face, 2 ans d'APL tranquillement. En parallèle, bien sûr, ils vont bénéficier de l'épicerie solidaire. Ça, je le sais parce qu'il y a une personne qui est membre du syndic de la résidence qui est à l'épicerie solidaire, qui a failli tomber en PLS quand elle les a vus arriver.
Effectivement.
Mais bon, donc, il n'y a pas de limite, quoi.
J'ai fait le calcul parce que ça fait 8 400 euros par an. 3 ans, ça fait 25 000 euros. 25 000 euros d'impayés. Votre mère, elle a la taxe foncière à payer, les charges et tutti quanti, et les frais d'avocat, parce que vous devez avoir un avocat à payer. Les avocats, c'est pas gratuit.
On a une protection juridique, on va dire. Donc ça atténue un peu les choses. Mais oui, il y a quand même des frais, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, aujourd'hui, ils sont condamnés. Hein. Ils doivent rembourser des sommes. On a obtenu ça, mais pour les récupérer, ça va être,
être
aussi un cauchemar. Bien sûr. Donc pour nous, c'est quasiment de la perte et profit, mais déjà s'ils partaient, et après, la seconde surprise qu'on aura, c'est on va récupérer l'appartement dans quel état.
Alors, restez avec nous, Ghislaine, parce que vous faites réagir au 0826 300 300, et vous savez quoi, on a un agent immobilier qui nous appelle pour dire que dans sa position, il est confronté à ça, et notamment aux personnes qui récupèrent leur appartement en mauvais état. Vous avez récupéré un appartement dans un état catastrophique après que la personne ne vous ait pas payé. Venez témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
On est de retour sur Sud Radio pour les vraies voix écoute la France.
Absolument.
Et on parle de cette proposition du ministre du Logement Vincent Jeanbrun d'un fichier national permettant aux propriétaires de connaître ses mauvais payeurs. Et au 0826 300 300, on a Luc qui a entendu Ghislaine et qui voulait réagir.
Bonsoir Luc.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toute votre équipe et à vous. L'auditeur.
Eh bien, merci à vous. Vous avez entendu le témoignage de Ghislaine qui est édifiant. Vous êtes agent immobilier, ça ne vous surprend pas ?
Alors, ça ne me surprend pas du tout. Moi, j'ai deux casquettes. Je suis agent immobilier et surtout promoteur immobilier.
D'accord.
Et je dois être d'ailleurs le seul promoteur immobilier au monde à ne pas avoir investi dans l'immobilier.
D'accord, effectivement.
Car je pars du principe que j'ai suffisamment de soucis immobiliers dans mon métier pour ne pas m'en créer en plus à titre personnel.
D'accord.
Parce que c'est vrai que c'est souvent la croix et la bannière pour les investisseurs. Alors moi, je fais des produits d'investissement, mais je me limite aux résidences pour étudiants.
Oui.
C'est-à-dire que les acquéreurs qui m'achètent ça ont affaire à une société de gestion. Oui. Et vous avez affaire au locataire.
C'est ça.
Même pas qui il est, d'ailleurs. Ils perçoivent un loyer de la société de gestion et ça m'évite bien des soucis avec les locataires et les propriétaires. Il n'en demeure pas moins que j'ai beaucoup de connaissances et de clients qui m'ont acheté des appartements et qui se sont trouvés face à de véritables galères. Alors soit parce que les locataires, eh bien écoutez, c'est comme tout le monde, hein, les gens ont des retours de bâton dans la vie.
Oui.
Et même s'il y en a de plus en plus, vous êtes bien placé pour le savoir avec les actualités que vous égrenez tous les jours. Donc il y en a de plus en plus et ça, malheureusement, on ne peut pas le remplir. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fichier dont vous parliez il y a quelques
minutes. Et hier aussi d'ailleurs, parce que le sujet a beaucoup fait réagir.
Oui, parce que bon, il faut voir comment il est fait. Mais il faut vraiment que ça soit un fichier qui se polarise sur les mauvais payeurs compulsifs, si vous voulez.
Ah oui, bien sûr, sur les récidivistes, voilà. Etc. Alors, voilà. Luc, restez avec nous. Ghislaine, restez avec nous. On a Nathalie qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Vous êtes garée, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Parfait. Je préfère m'en assurer, comme on m'a dit. Non, Nathalie est au volant, mais elle se gare. Voilà. Ouais. Bah, Ghislaine et Luc vous écoutent parce que l'appel de Ghislaine vous a fait réagir.
Oui, un petit peu. Donc moi, ça fait 38 ans que je fais de la gestion locative. Donc c'est vraiment mon cœur de métier. Et plus particulièrement, les 5 dernières années, là, en contentieux recouvrement, je suis un bailleur social.
Oui.
Quand j'entends cette dame expliquer un petit peu le suivi de sa procédure, je me dis forcément qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou que quelqu'un n'a pas suivi. Une procédure, c'est pas normal qu'au bout de 3 ans, que l'ordonnance arrive au bout de 3 ans qu'au bout de 2 ans, la CAF n'ait pas été suspendue. Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Alors moi, j'invite toujours, bien sûr, et je presse pour ma paroisse, les propriétaires, il faut passer par une agence. Alors,
oui.
Je sais bien, il y a des frais, tout ce qui s'ensuit.
Ça m'est arrivé, ça coûte beaucoup d'argent aussi sur la location.
Bon. Alors, on parle de la gestion courante et plus particulièrement et aussi, j'insiste aujourd'hui, c'est de prendre une assurance loyer impayé.
Oui.
Au moins, déjà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau de la procédure, elle est donc très encadrée. Il y a des délais qui sont ce qu'ils sont, mais notamment, je dis pour Ghislaine, quand on touche la CAF d'un locataire, au bout de 2 mois de loyer impayé, on doit faire ce qu'on appelle une saisine impayée auprès de la CAF. La CAF vous invite ensuite à mettre en place un plan d'apurement avec le locataire. Vous avez 6 mois pour le faire. Si au bout de 6 mois, vous n'êtes pas arrivé à négocier un plan d'apurement avec le locataire débiteur, la CAF est suspendue. Donc ce document de saisine impayée, il est indispensable déjà. Et lors de l'assignation en référé au tribunal, quoi qu'il en soit, le locataire bénéficiant de la CAF, le juge vous demandera impérativement c'est une notification à la CAF. S'il manque ce document, vous serez de toute manière recalé et il faudra de nouveau repartir en assignation et avoir des délais d'audience supplémentaires.
Oui,
donc
il faut
vraiment être vigilant. Hein, pardon ?
Les délais qui se comptent en mois.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de 2 mois de retard, c'est un commandement de payer avec une saisine. J'insiste vraiment auprès de la CAF. C'est un document indispensable. Ensuite, au bout de 6 semaines, s'il ne se passe rien, on part en assignation. Alors, suivant les régions, les tribunaux, les délais sont plus ou moins longs. Mais généralement, allez, même si on arrive à une assignation à 6 mois, il faut savoir qu'ensuite, il y a 2 mois donc pour signifier l'ordonnance. Et au bout de la signification de l'ordonnance, vous partez ce qu'on appelle en commandement de quitter les lieux, vous avez encore 2 mois, il y a la tentative d'expulsion, vous avez encore 2 mois, et c'est au bout du bout du bout qu'on demande le concours de la force publique. Voilà. Donc c'est pas normal qu'au bout de 3 ans, elle n'en soit qu'à l'ordonnance.
Alors,
il y a eu un couac ou un manquement. Hein.
Nathalie, on va redonner la parole à Ghislaine. Ghislaine, vous entendez Nathalie, on a l'impression que quand on est propriétaire, si on n'a pas une agence, il faut être juriste en droit immobilier pour arriver à se débrouiller.
C'est ça, parce que moi j'ai fait un courrier recommandé, alors au bout d'un certain temps, la CAF demande régulièrement si les loyers sont payés. Alors c'est vrai qu'au début on n'y croit pas trop, hein. 2 mois après le début du bail, sur des gens qui sont salariés, oui. On n'y croit pas du tout même.
Oui, c'est
on
clair.
Est peut-être un peu naïf, mais j'ai fait une lettre recommandée, alors pas dans les délais qu'évoque Nathalie, mais j'ai jamais eu de réponse rapide de la CAF, quoi. Ça a été très très long, Après, j'avais une question juridique. Enfin bon, je ne veux pas revenir sur l'ensemble de la procédure, mais c'est vrai que, en tout cas, nous, on l'a mal vécu par rapport au délai, c'est très clair. Mmh. Et que là, aujourd'hui, bon, il y a les 2 mois pour pouvoir avoir l'expulsion. On voit la trêve hivernale arriver gros comme une maison. On va avoir la couche supplémentaire. Nous, on est arrivé au bout du périple, je dirais.
Ah oui.
Ouais. Mais on est au bout du périple, mais pour autant, là, on se dit, on va se reprendre la trêve hivernale. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça le désespoir, mais on n'a jamais été aussi proche de la fin. En fait. Oui, c'est ça qui est la bonne nouvelle.
C'est la manière de positiver, Nathalie. Voilà. Ouais. Pour répondre à Ghislaine, oui.
Dernière chose, donc si vous êtes dans le délai, on va dire, d'obtention du concours de la force publique, donc il faut savoir qu'une fois qu'on a saisi le préfet a 2 mois pour vous octroyer ce concours. Alors, si effectivement, de toute manière, au 31 octobre, c'est cuit, hein, bien évidemment. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que vous avez fait, par exemple, vous avez saisi le préfet le 1er septembre, donc il a jusqu'au, on va dire, le 31 octobre pour vous donner vous octroyer le concours. Mmh. S'il ne l'a pas fait durant ce délai, vous pouvez lancer ce qu'on appelle une demande d'indemnisation État. Auprès de la préfecture, c'est-à-dire que à partir du 1er novembre, c'est l'État qui va vous payer votre loyer.
Ah ben c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, Ghislaine.
Oui, sauf que moi, ça arrive au 15 septembre.
Il y a très peu de propriétaires qui le savent.
Juste au 15 septembre. Donc
il faut savoir que vous avez tout à fait le droit. Donc on appelle ça une demande d'indemnisation État, puisque le préfet, normalement, il a 2 mois pour répondre. Donc soit il ne vous répond pas, soit il vous répond non. Mais en l'occurrence, à partir du 1er novembre, vous serez en droit de demander d'être indemnisé du paiement du loyer
par l'État.
Bah ça, c'est une procédure qui est assez longue, mais je peux vous dire que ça fonctionne très bien.
Ah bah, si d'accord. Vous voulez, on fera les entremetteurs entre vous deux. Nathalie,
pas de
vous
soucis,
êtes.
Ah ben, avec plaisir.
Vous êtes partante, Ghislaine ?
Mais bien sûr, bien sûr, toute aide est la bienvenue.
Ah bah, grâce à Sud Radio.
Je vous expliquerai comment ça se passe et comment ça se fait concrètement.
On va donner le mot de la fin à Luc, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Luc, vous voyez souvent des appartements saccagés après des locataires, on va dire, pas très précautionneux et mauvais payeurs en prime ?
Saccagés, non, j'ai pas des clients qui m'ont fait part.
Mais abîmés, je veux dire.
Abîmés, oui, bien sûr, abîmés, parce qu'on fait toujours moins attention. Vous savez, c'est le même problème que les locations de voitures.
Hein. Oui, ah oui.
Les joueurs, ils se retrouvent dans des étapes impossibles. Et donc, c'est un peu le même problème. Les gens font nettement moins attention à ce qui n'est pas à eux. Déjà qu'ils ne font pas toujours attention à ce qui est à eux. Ce qui appartient aux autres, ils s'en fichent complètement. Mais je voulais dire une chose, si j'ai 30 secondes.
Oui.
Le problème, si vous voulez, on revient toujours au même problème. Il n'y a pas assez de produits locatifs.
C'est clair.
Et une des raisons principales en est que la rentabilité du produit locatif est totalement nulle.
Ah, mais c'est clair.
Vous voyez, par exemple, j'ai construit une résidence, je ne sais que ça moi, quasiment maintenant, une résidence étudiante en Suisse.
Oui.
Et j'ai vendu ça à des investisseurs qui me réclament 3% de rentabilité.
Oui.
Pas plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas taxé.
Oui.
Je vends la même chose à un investisseur français. Une compagnie d'assurance, une truc comme ça, qui demande 7% de rentabilité.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Ce qui est totalement impossible à avoir dans l'étudiant, par exemple.
Bah c'est clair, c'est clair.
C'est pas possible. Et donc, en fait, le problème, il est là.
Ah mais...
Il est là, c'est que beaucoup de gens me disent, mais attends, je fais mes calculs, tac, et je gagne zéro. Avec
c'est
l'impôt sur la fortune immobilière, tu parles d'une fortune.
L'IFI, oui.
Et tout ça, donc c'est vrai que ça n'a pas... ça ne favorise pas cet investissement qui est essentiel.
C'est vraiment évident. Merci beaucoup Luc, merci beaucoup Ghislaine et Nathalie. On vous met en contact toutes les deux. Ça peut aider Ghislaine, ce sera parfait. Merci d'avoir appelé au 0826 300 300. On va parler d'un autre sujet dans quelques instants.
De Parcoursup. Absolument. Avec la fin de la phase d'admission complémentaire aujourd'hui. Donc si votre enfant se retrouve sans rien en cette rentrée scolaire 2026-2027, ou si ça a été un véritable parcours du combattant pour lui trouver quelque chose, vous venez témoigner au 0826 300 300.
19h-20h, les vraies voix écoutent la France. Philippe David.
Les vraies voix écoutent la France. Vous avez voulu à nouveau réagir sur les problèmes d'impayés de loyer, puis c'est bien, ça a créé des liens entre Ghislaine et Nathalie qui vont, vous me passerez l'expression, faire bons offices entre elles, et on les salue, ainsi que Luc. Et il y a un autre sujet pour lequel vous nous avez contacté cet après-midi, c'est Parcoursup.
Eh oui, Mathéo. Parce que Philippe...
Oh, pardon, j'ai oublié le teasing.
On va quand même parler de Clément.
Alors, on va parler de Parcoursup dans quelques instants, mais mes excuses, Clément.
Il n'y a pas de problème, on pouvait parler de Parcoursup avant. Bonsoir Philippe, non. Bonsoir à tous.
Alors, c'est le menu de la matinale de demain avec Jacques Cardoz.
Tout à fait, à 7h10, on va parler de ce projet de loi sur la transparence des salaires qui a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Sur le plan pratique, l'objectif principal du texte, c'est d'éradiquer les écarts de rémunération injustifiée, notamment entre les hommes et les femmes. Mais cette transparence salariale, elle ne plaît pas à tout le monde. Les entreprises de taille intermédiaire s'y opposent fermement. Elles dénoncent une charge supplémentaire de 8 milliards d'euros.
Ah oui.
À 7h40, on va revenir sur cette promesse assez folle de Donald Trump, le président américain qui promet 5 000 $ à chaque Américain si les Républicains gagnent les élections de mi-mandat. Achat de vote ou coup de génie, pour en parler, on recevra Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique et de la société américaine. Et puis tout au long de la matinale, on reviendra sur ce parent d'élève qui a menacé une enseignante de décapitation dans une école primaire près de Toulouse. Il a été présenté aujourd'hui en comparution immédiate. Notre envoyé spécial a suivi cette affaire pour Sud Radio. Reportage et réaction à écouter dans les journaux de Clara Pierney.
Et c'est dès demain à 7h du matin en direct Sud Radio avec Jacques Cardoz. Merci beaucoup Clément Barguin.
Merci à vous.
Donc je rattrape mon erreur, mon cher Mathéo. Je passe de Mathéo à Clément et de Clément à Mathéo. Vous nous avez contacté pour réagir sur Parcoursup.
Ah oui, c'était aujourd'hui la fin de la phase d'admission complémentaire. Et figurez-vous, Philippe, que c'est un véritable parcours du combattant pour trouver quelque chose à la rentrée. Et donc, ça a beaucoup réagi au 0826 300 300 et notamment Valérie qui nous a appelé.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Vous nous avez laissé un message que je vais qualifier de particulièrement énervé, mais à mon avis, à juste titre, nous vous écoutons.
Alors, mon fils était donc en terminale, il a eu son bac. Hein. Il postulait sur Parcoursup depuis janvier pour une première année en licence de droit sur la région parisienne, puisqu'il souhaite devenir commissaire de police. Et donc, une des voies d'accès pour devenir commissaire, c'est donc d'obtenir in fine un master de droit. Donc, première année en licence de droit. Donc, nous avions coché toutes les facs de droit
possible, imaginable.
Voilà. Alors, le 6 juin, une semaine avant le bac, histoire de bien le démotiver, il a donc reçu ses résultats de Parcoursup. Alors, son meilleur classement, c'était 657e à l'université d'Évry. Bon, il a passé son bac, il l'a eu, très bien. Donc tous les jours, entre le 6 juin et le... je vais même pas dire le 11 juillet, parce qu'en fait, les résultats de la phase complémentaire se sont arrêtés en réalité le 9 juillet, avant que ne tombent les résultats des jeunes qui malheureusement n'avaient pas eu leur bac au rattrapage. Donc entre le 6 juin et le 9 juillet, tous les jours, au réveil, nous allions sur Parcoursup pour regarder les places gagnées. Et donc, le 9 juillet, ça commençait à sentir bon l'écurie, comme on dit, puisqu'il était passé de 657e à 69e.
Ah oui, là,
bon,
oui.
À 69e, voilà.
Ça avait écrémé, là, oui.
Ça avait écrémé, 69e, le 9 juillet. Mais bon, d'un seul coup, pouf, par Parcoursup, alors ne s'arrête pas, c'est ce qu'on nous dit, mais en tout cas, le décompte, notre rituel de tous les matins s'arrête, on se sent orphelin, mais bon, il faut quand même continuer à regarder tous les jours sur Parcoursup pour voir si nous n'avons pas reçu miraculeusement une admission, une proposition d'admission donc pour Évry, qui est donc l'université la mieux placée. Donc pendant tout l'été, donc ça a commencé déjà le 6 juin, donc tout l'été, tous les matins, oh là là. Parcoursup. Et à l'aveugle, donc, parce qu'on n'a plus de décompte, donc on ne sait pas s'il reste quoi, 2 places, 3 places, 10 places, 20 places, on ne sait pas. Donc tous les matins, vous êtes en vacances, c'est pas grave, Parcoursup. Vous êtes occupé d'autre chose, Parcoursup, tous les matins. Et puis voilà, et puis manque de bol. 3 jours avant la rentrée de l'université d'Évry, qui donc reprenait les cours, enfin la réunion c'était donc le 2 septembre, un dimanche, le 30 août, la proposition d'admission à l'université d'Évry, tant attendue, arrive, mais là, pas de bol. Mon fils ne peut pas se connecter sur Internet ce jour-là. Et donc, c'est le lendemain, le 1er septembre, que là, il m'appelle, il me dit « Maman, tu vas pas me croire, j'ai eu la proposition, mais elle a été annulée dans la foulée parce que il fallait que je réponde avant 23h59, donc en moins de 24 heures.
Oh là là,
et ça,
terrible.
J'ai même pas c'est reçu, terrible. Moi, en tant que parent, un mail m'avertissant qu'il y avait eu quelque chose, parce que par le passé, il y avait eu un mail, donc ça, je savais que ça fonctionnait comme ça. Mon fils ne savait pas que les délais étaient considérables réduit, il avait donc moins de 24 heures pour rattraper le TGV Parcoursup au vol. C'était, et voilà, il a raté. Donc le premier, en clair, c'était mort. Bon, oui. J'ai tout fait. Hein. J'ai téléphoné. Bon, là, il a déjà commencé par envoyer un mail à Parcoursup pour expliquer son histoire. Moi, j'ai téléphoné 25 fois au numéro de Parcoursup, le 0800 400 070. À chaque fois, la réponse enregistrée était la même. Votre appel va être traité. Et puis ensuite, on me disait qu'il avait eu un problème technique et qu'il ne pouvait répondre. J'ai envoyé un mail au président de l'université d'Évry. J'ai envoyé un mail au rectorat. J'ai laissé un message au rectorat. Donc le président de l'université, ne m'a pas répondu. Le rectorat non plus. La seule réponse que mon fils a eue a été via Parcoursup. Je la cite. Nous ne pouvons pas réintégrer votre proposition d'admission perdue à ce stade de la procédure. Et alors le pire dans tout ça, c'est que nous, on avait coché au mois de juillet la case CAES. Alors CAES, c'est quoi? C'est la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui se charge d'essayer de trouver une place pour... Alors là, je vais vous donner les chiffres au mois de juillet, quand la phase principale s'est arrêtée. Bon, c'est Ouest France qui donnait ces chiffres-là. Hein. Donc il y avait, le 11 juillet, 126 652 naufragés de Parcoursup, dont 57 024 néo-bacheliers, donc ceux comme mon fils qui avaient eu leur bac là, cette année, là, début juillet, 46 216 étudiants en réorientation, et je termine juste, il y avait 23 412 candidats scolarisés à l'étranger qui faisaient aussi partie des naufragés de Parcoursup et qui postulaient donc pour avoir une place à l'université.
Alors, voilà. Valérie, on a beaucoup de réactions au 0826 300 300. On prend tout de suite Héloïse. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir.
Vous venez de nous appeler, vous avez 18 ans et vous avez un problème avec Parcoursup aussi.
Oui, c'est ça.
Ben, on vous écoute.
Moi, ça fait depuis début avril plutôt, excusez-moi. J'ai fait plein de propositions sur Parcoursup. Depuis le 2 juin, j'ai aucune proposition. Je suis en attente de venir à Évry. J'ai eu que des réponses négatives, donc j'ai été refusée. J'ai fait pendant l'été, je me suis cassée la tête à chercher plein d'autres domaines, plein d'autres propositions de candidature dans différentes universités. Pareil, on m'a refusée pour je ne sais quelle raison. Et là, depuis fin juillet, j'ai fait demande à l'accompagnement KES qui me répond toujours qu'ils vont s'occuper de mon cas. Ça fait 2 mois, j'attends qu'ils s'occupent de mon cas, ils font rien. Oui. Là, j'ai refait des demandes, j'ai été refusée. Là, en début de semaine, j'ai appelé plein d'universités, j'ai écrit des mails et tout ça. On me dit que oui, on reviendra vers vous. Non, on n'a pas de place. Non, c'est impossible. Donc, ça devient vraiment la
Et vous n'avez rien là pour la nouvelle année scolaire?
J'ai rien du tout. Rien du tout.
Et si vous appelez le même numéro, 0800, j'ai oublié le numéro que nous donnait Valérie, vous, pas de réponse, faut laisser un message, envoyer des mails sans réponse comme Valérie au rectorat, la ligne vide, c'est ça, c'est le téléphone sonne dans le vide.
Oui, une fois il m'avait appelé le numéro de Parcoursup, c'est ça.
Oui.
Oui, il m'avait appelé en début, en fin juin pour me demander où j'en étais par rapport à mon parcours. Et ils m'ont dit de les rappeler. Donc je me suis dit, je vais les appeler en début septembre pour peut-être avoir une information pour qu'ils puissent me guider vers une candidature. Sauf, ils ne répondent plus.
Oh,
le numéro, il est plus attribué.
Alors, Héloïse, restez avec nous ainsi que Valérie parce qu'on a Pauline qui veut réagir. Bonsoir Pauline.
Bonsoir tout le monde.
Et vous, manifestement, vous avez également un problème pour votre fille avec Parcoursup.
Bah c'est ça. Moi je vois que je suis pas seule, mais bon, ça console pas.
Ça console pas, on est bien d'accord.
Non, pas du tout. Moi, là, on a fait le choix de l'université qui était à côté de chez nous. Et après, forcément, vous faites plusieurs choix. Et elle a été attribuée, mais à Bordeaux.
Oui.
Donc finalement, elle s'est retrouvée avec une fac super loin. On a du tout organisé.
Vous êtes dans le Gard, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah oui, Bordeaux, ça fait 550 km, oui.
Oui, à peu près, ouais. Donc il faut trouver un appartement, mais c'est toujours au dernier moment, il faut trouver un appartement, sauf qu'ils sont déjà tous pris, donc vous prenez celui qui reste.
Et qui est très cher.
Voilà, qui est très cher. Gérer les déménagements, parce que ma fille, elle a que 18 ans, donc il faut forcément l'accompagner. Enfin, ça représente une somme énorme. Et je vous parle pas des concours qu'on a payés où elle a été refusée. Enfin, vraiment, c'est... Et quand on n'a pas les moyens de sortir plusieurs centaines d'euros par mois, ben, c'est comment on fait, en fait? Comment ces gens peuvent, ou ce logiciel peut se dire, ah ben tiens, il y a une autre université juste là où ils habitent, ben non, on va l'envoyer à Bordeaux.
Mais quand j'entends Valérie, parce que Valérie qui dit tous les matins on regardait Parcoursup, on a l'impression que c'est l'info qui doit tomber. Moi je sais pas, à l'ère des SMS, ils pourraient pas vous envoyer un SMS, vous êtes admis, machin truc, et puis laisser un peu plus de 24 heures pour répondre quand même. C'est pas quand on appelle les pompiers qu'il faut qu'ils viennent dans les 10 minutes. C'est complètement fou, non ?
Tout à fait. Ah, mais il n'y a rien qui va dans l'histoire.
Il n'y a rien qui va, non ? Ça, c'est clair. Et alors, vous, Pauline, ça s'est bien terminé parce que vous avez trouvé une place pour votre fils. Votre fille, pardon. Oui, Héloïse. Alors, elle, c'est plus compliqué. On va redonner la parole à Valérie. Valérie, est-ce que votre fils a d'autres pistes là ou pas ?
Je vais essayer de le mettre en auditeur libre à l'université d'Evry parce que je vous avouerai que ça passe pas.
Oui.
Franchement, je ça horrible d'attendre pendant un été.
Mais c'est dingue.
Entier,
et tous les matins,
pourrit,
non mais c'est fou.
Ça pourrit et puis juste pour et même pas un mail pour prévenir les parents. Il y a quelque chose qui est arrivé sur Parcoursup. Là, c'était je sais pas si mais comme un TGV, voilà.
C'est dingue.
Et donc, pour l'instant, il a rien. De toute façon, il aura rien. Parcoursup, c'est terminé aujourd'hui. Donc, je vais essayer de le mettre en auditeur libre à l'université d'Evry. Au moins, si c'est accepté, il aura accès aux amphis, mais il perd son année parce qu'il ne peut pas se présenter
aux examens, etc.
Au TD, voilà. Donc je me dis, parce qu'en plus, en droit, on sait qu'il y a 30 ou 40% des étudiants qui abandonnent assez rapidement.
Oui.
Donc il faudrait qu'il y ait déjà une deuxième phase d'entrée par exemple en novembre, pour que tous ceux qui sont partis ailleurs laissent la place dans l'amphi, dans les TD, pour les étudiants qui ont eu un problème de parcours. Donc moi je vais le mettre en auditeur libre, puis on verra bien. Voilà,
on croise les doigts qu'une place se libère dans les heures et les jours qui viennent. Héloïse, vous, pas de piste non plus pour le moment ?
Non, rien du tout.
J'ai l'impression, en entendant Valérie, Pauline et vous venez d'avoir le bac, Héloïse, vos copains, vos copines de lycée qui ont bachoté il y a quelques mois, vous êtes la seule dans cette situation où ils vous disent tous Parcoursup, c'est le foutoir. J'allais utiliser un autre mot, mais que je ne dirais pas à l'antenne.
Non, mes copains copines ils me disent pas ça. Eux, ça s'est passé très très bien. Ils sont pas dans le même cas que moi.
D'accord. Mais la fille de Pauline, ça a failli mal se terminer. Le fils de Valérie, c'est mal terminé. Donc,
oui,
on peut supposer que vous êtes quand même assez nombreux à avoir des problèmes. Je sais pas, est-ce que vous trouvez pas que c'est quand même dingue ? Valérie, vous avez appelé 25 fois un numéro qui n'a jamais répondu, c'est ça ?
Oui, jamais. Mais Philippe, c'est fini. Hein. Il n'y a pas de place à espérer. Hein. C'est fini. C'est aujourd'hui, c'est fini. C'est laconique. Nous ne pouvons pas réintégrer votre proposition d'admission perdue. Vous n'avez pas répondu en moins de 24 heures ce dimanche 30 août à l'aveugle, puisqu'on ne sait pas.
Il vous envoie ça un dimanche en plus, non mais.
Non mais c'est fini, c'est fini. Maintenant, il faut attendre Parcoursup de l'année prochaine pour qu'il puisse, à moins que quelqu'un intervienne dans les hautes instances, je ne sais où, mais en tout cas, normalement, sinon. Puis en plus, quand vous avez affaire à une plateforme où vous ne parlez pas directement à un être humain, on vous dit non, c'est non, 23h59, une seconde plus tard, c'est fini.
Ah bah c'est fini. C'est le blocage informatique. Alors, message que j'envoie à tout le monde, si jamais vous connaissez le recteur de l'Académie d'Evry, vous êtes où vous, Héloïse? À Paris, ailleurs.
À Évry aussi, moi.
Ah bah alors, attendez, alors.
J'en attente aussi à Évry.
On a deux cas en attente à Évry. Le fils de Valérie et Héloïse, comme Pauline, le cas est réglé à Bordeaux. Si vous connaissez le recteur de l'Académie d'Évry, si vous connaissez le directeur de l'université, ou le président, pardon, de l'université d'Évry, si vous connaissez quelqu'un qui peut avoir une action qui pourrait aider le fils de Valérie et Héloïse, vous savez quel numéro appeler. Le 0826-300-300, vous nous laissez un message, on va voir ce qu'on peut faire, Valérie, Héloïse, on ne peut pas vous promettre de miracle, mais vraiment, on vous envoie tout notre soutien, Héloïse, tout notre soutien, Valérie, à votre fils. Merci aussi, Pauline, on lui souhaite une bonne année scolaire à Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est comme une ville sympathique, hein. Le gars, c'est bien,
mais c'est loin de moi.
Oui, ah bah ça c'est clair.
Et puis c'est cher.
Mais oui, c'est cher, oui. Mais vous savez, il faut bien avec les enfants. Moi, les miens sont grands maintenant. Qu'un jour l'oiseau s'envole de son nid. Nous sommes bien d'accord. Je me permets de vous embrasser, Valérie, Pauline et Héloïse. Et vraiment, merci quand beaucoup. On voit le foutoir qui est Parcoursup, je me demande comment des gens ont pu avoir des idées aussi stupides. Tous les ans, on a des appels pour se plaindre que Parcoursup, je vais le dire, c'est le bordel. Et j'ai l'impression que chaque année, c'est pareil, ça ne s'arrange pas. Moi, je trouve ça totalement dingue. Je trouve ça totalement incroyable. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu? Vous êtes
d'accord.
Passé par Parcoursup?
Je suis passé par Parcoursup
parce que vous
également.
Êtes jeune.
Oui, et en fait, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec des jeunes qui voudraient étudier, que là, ils se retrouvent sans rien. Quoi. C'est quand même dramatique. C'est inquiétant pour l'avenir aussi. Hein. C'est inquiétant.
C'est complètement fou. On va finir avec un sujet plus léger. C'est une association d'anciens combattants qui nous a écrit un courrier que j'ai ici, qui m'a beaucoup touché, et c'est pourquoi on va donner la parole à un de ces appelés du contingent qui, en 1968, a été envoyé en tête d'opération alors qu'il n'aurait pas dû y aller. Et lui et ses camarades demandent deux choses qui ne coûteraient pas un centime à l'État, et je trouve que c'est beau, c'est pour ça qu'on leur donne la parole. Vous avez des histoires à raconter, comme Gilbert, qu'on va voir dans quelques instants, comme Valérie, comme Héloïse, comme tout le monde, comme Pauline, Ghislaine, Luc ou Nathalie, venez témoigner au 0826-300-300, on se retrouve dans quelques instants.
19h-20h, Les Vraies Voix écoutent la France, Philippe David.
Les Vraies Voix écoutent la France, Mathéo, vous êtes nombreux à nous appeler, nous écrire, et j'ai reçu un courrier qui m'a beaucoup touché. C'est un courrier qui a été écrit par le vice-président de l'UNC, l'Union Nationale des Combattants de Saint-Vivien-de-Médoc-Nord-Médoc, je peux le citer, un Jean-Émile Le Dorven, qui m'a alerté sur ce qui s'est passé pour des appelés du contingent. Bonsoir Gilbert.
Oui, bonsoir.
Une histoire touchante. On a échangé avec Jean-Émile Le Dorven et avec vous. Alors, je résume l'histoire. Vous avez été envoyé au Tchad en zone de combat alors que vous étiez appelé du contingent en 1968, en août 68, et qu'on n'aurait pas dû vous y envoyer. Et vous demandez deux choses qui ne coûtent pas un centime à l'État. Expliquez-nous.
Ben, je souhaiterais que l'opération soit reconnue, qui me permettrait d'avoir surtout le TRN, le titre de reconnaissance nation, qui est gratuit, bien, puis plus la médaille Outre-mer, et surtout de bénéficier de l'ONAC, si l'opération est reconnue, que je puisse avoir le cercueil sur mon drapeau, puis hein, d'autres... De ce que favorise l'ONAC, quoi, je dirais, davantage.
Alors, je vais résumer l'histoire. Vous avez été envoyé au Tchad. Il y avait des combats au Tchad à l'époque, en août 68. Vous n'auriez pas dû être envoyé en tant qu'appelé du contingent. Bon, vous n'avez pas eu de perte a priori, ce qui est quand même le plus important. Et vous demandez donc la médaille d'outre-mer, et ce serait à vous de la payer. Et vous demandez alors le TRN, j'explique ce que c'est le titre de reconnaissance de la nation. Ça ne coûte pas un centime, mais parce que vos camarades de combat et vous-même, vous aimeriez, le jour où vous quitterez cette terre, avoir droit au drapeau tricolore sur votre cercueil. C'est, vous êtes nombreux encore, parce qu'on imagine que c'était en 68, il y a près de 60 ans, à être encore dans votre cas.
Oui, on est encore assez nombreux. Des appelés, ben, c'est difficile. On s'est un peu perdu de vue. C'est dans toute la France.
Vous étiez parachutiste à l'époque, hein, je le dis.
Oui, j'ai fait mon service à 6e CPIMA au Tchad, voilà, qui faisait partie du 6e ROM.
C'est ça.
Hein, et c'était une unité qui était censée intervenir s'il y avait un problème de coup d'État ou.
Bien sûr.
Voilà, c'est pour ça que...
Et vous avez été en contact avec votre député, etc., pour demander à ce qu'on vous fasse droit de ça, qui ne coûterait pas un centime. Et moi, je trouve beau que des hommes me disent, le jour où je pars, je veux avoir le drapeau tricolore sur mon cercueil. Moi, ça me touche énormément.
Ben, j'ai insisté auprès de beaucoup de députés, de sénateurs, mais bon, c'est toujours resté
lettre morte,
hein. Parce qu'il paraît qu'on n'aurait pas assez combattu. Vous voyez, j'ai pas assez souffert de l'opération, mais bon, c'est comme ça, vous savez, c'était... général de Gaulle, il nous a envoyé là-bas, il a pas dit, non, vous restez là, non, c'était... On faisait partie d'une opération, puis ben, fallait y aller, hein, c'était pas...
Oui, je sais, vous m'avez même envoyé des photos par mail de vous en uniforme dans le désert avec casquette Bijard et MAD 49.
Bah, c'était l'armement.
Bah, c'était l'armement à l'époque, la MAD 49, oui, qui était fabriquée à Tulle. Alors, moi, je vous promets une chose, Gilbert, votre cause m'a vraiment beaucoup touché. Je vais voir ce qu'on peut faire pour que vous ayez ce droit, parce que moi j'estime que quelqu'un qui veut avoir un drapeau tricolore sur son cercueil, surtout s'il a combattu, porté les armes de la France en opération extérieure, ça doit être un droit. On va voir de notre côté, vous avez mon téléphone, j'ai le vôtre, ce qu'on peut faire pour vos camarades de combat, parce que ça m'a vraiment beaucoup touché, et j'aime les militaires, j'aime notre armée, et on va voir ce qu'on peut faire. Merci à vous Gilbert, on se tient au courant bien évidemment.
Je voudrais aussi rajouter que on parle des drapeaux, la République française, donc pendant un militaire, j'ai eu le certificat de bonne conduite qui se faisait pour les appeler à l'époque.
Eh bien, félicitations.
Alors, ils disent que c'est pour la bonne conduite.
La bonne conduite, oui. Ce qui a été remplacé par la médaille de la Défense nationale après pour les appeler.
Peut-être. On n'a pas.
On s'était plus tard. C'était dans les années 80. Absolument. C'était dans les années 80. J'ai eu l'honneur d'être décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale, d'ailleurs. Mais j'étais pas allé en opération extérieure. Bravo à vous. On se tient au courant, Gilbert. On va voir ce qu'on peut faire. Merci, Mathéo.
Merci, Philippe.
On se retrouve pour les Vraies Voix avec Cécile de Minibus demain, 17h. Mais tout de suite, on vous a compris, Anthony Martin-Smith.